voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi.
Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, c'est, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'à un autre iceberg. Mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Neuvième épisode. L'île aux oiseaux.
Mardi 11 décembre, au lendemain du débarquement, tout le monde prend ses marques. Dès la sortie de l'Astrolabe, avant même d'avoir récupéré tout leur matériel, le temps est court pour les scientifiques campagnards d'été. Ils sont là pour quelques semaines et le rythme biologique des oiseaux n'attend pas. Parce qu'il n'y a pas que des manchots en Terre Adélie. Il y a un gigantesque écosystème ornithologique qui comprend de nombreuses espèces d'oiseaux marins qui viennent nicher sur les bords de mer du continent blanc, pétrel des neiges ou océanique de Wilson, entre autres. À quelques mètres du bâtiment où logent les estivants sont posés les containers qui font office de bureau d'études. À peine arrivé, il faut sortir la pelle et creuser la neige.
Là, ils sont sous, là, on est sous la neige, donc là, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun oiseau qui a pu avoir accès. Par contre, là, sur les rochers qui sont un petit peu plus à nu, il y a toujours des petites fissures, des petites crevasses. Comme c'est des tout petits oiseaux, ils arrivent à se faufiler là-dedans, en fait. Mais après, potentiellement, on pourrait trouver des oiseaux là, mais c'est le risque pour eux de se faire ensevelir par la neige pendant les tempêtes d'été.
Jérôme Fournier, ornithologue et biologiste marin.
Là, on est survolé par un squat, parce qu'il y a un couple de squats qui nichent ici, au milieu de la colonie. Alors, c'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, ils prédatent aussi les oiseaux, les océanides, pour nourrir ses propres petits. Donc là, ils viennent nous survoler. Faut faire attention à cette tête. On n'oublie pas, c'est nous qui sommes chez eux. C'est pas le contraire. Quand tu marches sur les cailloux, juste en dessous de toi, il y a des nids en fait d'oiseaux. C'est des tout petits pétrels marins là. Ils nichent en fait dans les anfractuosités des rochers, on ne les voit pas. Mais le soir on les entend bien. Quand tu reviendras ce soir, pas à la tombée de la nuit parce qu'il n'y a pas de nuit, mais tu entendras les oiseaux, puis même tu les sortiras sortir leur petite crevasse. Et ils partiront s'alimenter en mer. Ces petits oiseaux noirs et blancs en fait, c'est les plus petits oiseaux d'Antarctique. Hein. Ils pèsent que 40 grammes. Et c'est semble-t-il l'espèce la plus abondante. Et ils nichent en tout le pourtour de l'Antarctique, y compris dans les îles subantarctiques. Ici, sur l'île des Pétrels, donc l'île où on vit, il y a à peu près 900 couples en fait, qui vivent ici. Là. Et donc, quand on marche sur ce fameux chemin de corde, ben, on marche en fait dans la colonie. C'est vrai qu'il ne faut pas s'écarter en tout cas du chemin de corde. Tout le reste est protégé, c'est une réserve, donc on n'y a pas accès, sauf pour des raisons de travail. Quoi. Et donc, il faut déneiger, je pense, environ... au moins 70-80 mètres de distance pour pouvoir installer les filets.
D'accord.
Et donc on a une grosse corvée de pelletage de neige. Ah voilà les cailloux que je cherche. Des cailloux pointus pour pouvoir placer mes haubans. Haubans qui vont tenir les perches et perches qui vont tenir les filets. Voilà.
Sainte des Neiges.
Ah oui. Ah, dans l'ancre actualité du rocher.
C'est son île. Son œuf.
Et le numéro qui est à côté, c'est quoi? C'est ça.
C'est un numéro pour les repérer. Ça, c'est des oiseaux probablement d'âge connu. C'est-à-dire qu'on a bagué poussins et qui sont revenus. Donc, on connaît l'âge précisément.
Olivier Chastel, ornithologue.
Donc, on a des oiseaux qui sont parfois au-delà de 50 ans. Hein, parce que le bagage a été ininterrompu depuis les années 60.
Et là, par exemple, il nidifie, il couve ou c'est juste qu'il se protège du froid?
Voilà, ben là, en fait, là, il a fait son nid. Donc, le nid, c'est sous une anfractuosité de rocher. Un petit tas de pierres pour maintenir l'œuf au sec. L'œuf a été pondu il y a quelques jours. Et là, il y a l'oiseau, probablement d'ailleurs le mâle, qui commence un premier séjour d'environ 10-12 jours à jeûner sur l'œuf, pendant que sa partenaire est en mer pour refaire ses réserves. Donc, ils alternent des phases de jeûne et des phases où ils vont s'alimenter en mer dans la glace dérivante. Et puis on va passer régulièrement parce qu'on va leur poser des petits appareils justement pour voir un peu où est-ce qu'ils vont s'alimenter. Donc c'est des petits GPS de quelques grammes. Et donc il faut bien surveiller lorsque l'appareil est de retour pour pouvoir déséquiper l'oiseau et ensuite télécharger les données pour connaître un peu ses déplacements. C'est une espèce extrêmement facile, très confiante. On les attrape à la main, c'est-à-dire qu'on va s'approcher du nid. On va avoir un petit crochet pour doucement tirer la patte de l'oiseau et ensuite le capturer, lui poser un appareil ou faire une prise de sang. Parce qu'il y a des espèces qui seraient passionnantes à étudier, mais qui sont très méfiantes, peu abondantes. Là, on a une espèce qui niche en colonie, donc on a accès à beaucoup d'oiseaux et à proximité immédiate des bâtiments, donc c'est vraiment très pratique. On marque les nids d'une année sur l'autre, mais parfois les étiquettes disparaissent au cours de l'hiver. Donc, voilà l'étiquette du nid 940. Mais il n'y a personne. Ah si. Non bagué. Parce qu'on bague tous les poussins de l'archipel. Donc ça peut être aussi des mouvements d'oiseaux d'autres colonies qui viennent s'établir en Terre Adélie. Il faut savoir qu'une fois qu'ils se sont établis dans une colonie, après ils n'en bougent plus. Sur certains nids, on voit d'ailleurs des accumulations de crachats congelés qui ont, ça fait une espèce de pâte, de beurre qui est là depuis des années et des années. Certaines colonies de pétrels des neiges ont pu être datées avec l'accumulation de ces crachats. Et sur certains secteurs antarctiques, il y a 1000 ans de présence du pétrel des neiges. Voilà, on va passer au nid suivant. Tu fais celui qui est en dessous. Moi, je vais me concentrer en fait sur la barre et je vais remonter. Ce sera plus efficace.
D'habitude, c'est moins enneigé que ça?
Ah oui, bah d'habitude c'est en fait complètement libre de neige, mais là il y a eu des précipitations neigeuses récemment, et donc parfois certains oiseaux sont d'ailleurs, leur nid est entièrement couvert de neige, ça leur fait une espèce d'igloo, une espèce de cocon de neige dans lequel ils s'abritent. Voilà l'œuf. Un œuf relativement gros, hein. Les pétrels font un seul œuf, mais qui est très gros, très chargé en réserve, de graisse notamment. Et c'est un œuf qui est capable de supporter ce qu'on appelle une incubation intermittente, quand les oiseaux sont un peu limite au niveau réserve et qui doivent s'alimenter avant d'être relevés naturellement par leur partenaire. Ils peuvent s'absenter en début de cycle, quand l'embryon est à peine en train de se développer. Et l'œuf peut être laissé seul plusieurs jours comme ça.
Il est bagué, hein?
Ouais. Donc il s'agit de FL15046. Donc ça, c'est une bague relativement ancienne. Et là, on voit bien sur cet oiseau là, la caractéristique des pétrels, à savoir cette narine qui sert beaucoup parce que les oiseaux utilisent beaucoup leur olfaction pour naviguer, s'alimenter. et aussi parce que ça permet d'excréter le sel. Les oiseaux buvant de l'eau de mer avec la glande à sel, eh bien, ils ont la possibilité d'enlever ce sel, ce qui fait qu'ils ont toujours la goutte au nez comme ça.
Un peu comme moi en ce moment d'ailleurs.
Voilà la femelle, vous entendez ? La femelle est nettement plus aiguë. Et son mâle lui répond. Donc les deux sont non bagués et non reproducteurs visiblement. Donc c'est certainement des jeunes oiseaux qui sont en train de. Voilà, d'établir un nid pour les années suivantes. Quoi. Les oiseaux sont actifs un peu toute la journée, mais le soir. On a plus d'activités de parade, de recherche de terriers, de bagarres entre les individus, parce qu'une fois qu'un nid, des nids de bonne qualité, bien isolés, où la neige ne tombe pas, où ça gèle pas dedans, sont âprement disputés, hein, jusqu'à des fois des batailles à l'issue parfois fatale. Hein. Oui. Donc ça, c'est un oiseau de grande taille, vous voyez, quand même, par rapport à ceux qu'on a au couple précédent, là, la taille est sensiblement plus importante.
À quelle envergure environ ?
Oh, ça fait environ un bon mètre, 1m10. Voilà, on va le replacer. C'est fini pour toi. Là, je crois que vous êtes baptisé là. Ça va, ça reste correct, c'est sur la chaussure. 32 744 sur œuf. 32 744.
Ah, bah vous aussi, vous êtes baptisé.
Il a projeté un peu. L'huile, c'est sa défense. C'est une huile qui est très collante et qui a une odeur extrêmement marquée, un peu d'huile de foie de morue. Donc, c'est pour la raison pour laquelle nous sommes habillés de cette façon à nous protéger.
C'est très orange et c'est une odeur très puissante.
Alors
aussi.
Alors ça, oui, ça c'est orange parce que c'est typique de cette période de l'année où on a beaucoup de krill. Donc tous les crustacés, ça marque avec des pigments orange.
Vous me disiez tout à l'heure qu'ils se laissaient faire et que bon, ils râlent un peu quand même. Hein.
Ouais. Ah oui, ils sont. Voilà, ils manifestent leur désapprobation, mais voilà, ils restent quand même très. Très peu perturbé par notre présence. Quoi.
Jérôme Fournier a posé de grands filets en hauteur pour capturer ces toutes petites océaniques de Wilson, pendant que la lumière, malgré le jour polaire, décline un peu et devient rasante.
Le démaillage, c'est une phase un peu critique en fait. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent au filet. Donc on fait un petit peu attention à ça.
Vous avez réussi à en capturer beaucoup là, depuis.
Je les ai installés à 14h cet après-midi, donc il est plus de 21h. Là c'est un début de soirée normal. On a déjà une quinzaine d'oiseaux pris. Voilà, mais la soirée va durer encore jusqu'à 2-3 heures du matin, je pense. On est vraiment dans la partie de la soirée où il y a le plus d'oiseaux. Donc c'est les oiseaux qui reviennent de mer, ils se sont nourris en mer. Et ils rentrent à la colonie, en fait, couvés. Et on les voit faire ces sortes d'orbes, ces sortes de vols en 8. Parce qu'ils reconnaissent petit à petit la colonie. Et puis avec leur odorat, qui est super développé, ils arrivent à identifier le partenaire.
C'est pas vocal, parce qu'on les entend vocaliser beaucoup.
Alors, ils vocalisent aussi beaucoup, il y a les deux. Mais la vocalisation, là, on a un accouplement, là, actuellement. Voilà, il y avait deux oiseaux devant nous qui étaient en train de s'accoupler. Donc ces vocalisations, elles sont là pour ça, pour attirer le partenaire. Mais il y en a qui ont déjà pondu. C'est une espèce qui se caractérise surtout par une très longue durée de période de reproduction. La plupart des autres oiseaux, ils sont tous synchrones. Ceux-là, ils étalent en fait leur reproduction sur un mois et demi à peu près. Ce qui optimise la chance de certains de pouvoir aller jusqu'à terme et d'élever leurs jeunes. Parce qu'ils sont très sensibles en fait aux tombées de neige. Dès qu'il y a une tombée de neige qui quand même est assez fréquente ici, ben, ils n'ont plus accès à leur nid. Et donc l'œuf n'est plus couvé et donc il n'y a pas de reproduction possible.
Voilà, Fabien revient avec un oiseau, donc on va pouvoir à nouveau mesurer.
Qu'est-ce qui s'est passé, Fabien ?
Oh bah, elle m'a craché dessus. Se défendre en crachant, en vomissant. Sauf que bah, j'en ai partout. Et ça sent pas très bon. Et j'en ai même dans la bouche.
Les risques du métier d'ornithologue.
Du krill prédigéré dans la bouche. Pas très bon. On peut faire les gambas grillées au beurre.
Voilà, la consigne, c'est juste de ne pas parler trop fort et éviter tous les bruits métalliques, etc., parce que ça les stresse beaucoup. Voilà, donc c'est un deuxième oiseau qu'on vient de capturer. Il est lui aussi bagué. Alors, on va regarder. Ah, et bien écoute, ça, c'est une belle surprise. C'est un oiseau dont je suis sûr qu'il a plus de 16 ans. C'est un oiseau qui a été bagué ici il y a 16 ans, grâce à son numéro de bague. L0616. Donc c'est bien ça, c'est bien un oiseau qui a été bagué il y a 16 ans par le laboratoire du CNRS de Chizé. Il est 21h45. Alors on regarde si c'est un reproducteur en soufflant sur les plumes, sur son ventre. Donc il y a bien une plaque incubatrice. On va vérifier l'usure du plumage. Au niveau des grandes couvertures, elles sont légèrement frangées, légèrement usées. Donc on va le noter. 151 mm pour l'aile. 34,9 pour le tarse. Il a bel et bien la présence de taches sur les palmures, ce qui confirme son âge avancé. 41 grammes. Donc c'est le poids standard pour cette espèce. Et voilà, il n'y a plus qu'à relâcher.
Eh bien, après moins d'une semaine, effectivement, j'ai pu me mettre en place en fait très rapidement. J'ai pu installer tout ce que je devais installer sur la colonie d'oiseaux que j'étudie, donc installer les filets, etc. Et j'ai pu faire déjà deux belles séances de capture. Une de à peu près 12 heures, l'autre de 16 heures de suite. Et j'ai eu la grande chance, grande surprise, de retrouver les oiseaux que j'avais bagués les années précédentes. Et surtout, hier, le premier petit logger électronique que j'avais posé l'an dernier, qui va me permettre de tout savoir sur le déplacement de mon espèce fétiche, l'océan de Wilson, à travers les océans du globe. Donc ça donne la position de l'oiseau jour et nuit pendant toute une année. Et le cumul en fait de ces informations, à la fois sur cette espèce et sur d'autres espèces, nous permet de savoir si effectivement ces espèces changent de stratégie de dispersion en fonction du réchauffement climatique qu'on observe. C'est généralement les oiseaux marins suivent les courants marins, des courants marins préférentiels, les zones de nourriture, et on regarde si effectivement tout ça, ça va changer, ça va affecter le comportement de ces oiseaux.
Bon, et la suite du coup des opérations pour vous?
Ça va être du terrain à 100%, donc du coup je vais pas pouvoir profiter des soirées de la vie sociale de DDU, mais je suis là pour ça, donc je vais vivre dans la colonie d'oiseaux. Ma journée commence maintenant, donc il est 18h, et va se terminer quand le vent m'empêchera de travailler ou quand les oiseaux iront se coucher.
Parmi la population d'oiseaux marins, il y a les gentils pétrels blancs immaculés, les gentilles océanites brunes et les méchants et énormes squats, la terreur ailée de Dumont d'Urville.
Eh ben ouais, là il va peut-être essayer de prendre un œuf sur un nid abandonné. Ah non, c'est sur un poussin de l'an dernier. Ils font aussi beaucoup de charognage. Donc là, comme ça a été une mauvaise année l'an dernier pour les adélies, il y a pas mal de cadavres et il continue à piocher dans les cadavres qui dégèlent.
Sympathique.
Donc voilà, c'est la nature.
Donc c'est FL27247. Il envoie un squat là. Donc il doit nicher dans le coin. Alors le même principe que les pétrels des neiges, tous les oiseaux sont bagués. En plus ils ont une bague plastique qui permet de lire la bague à distance sans avoir à le capturer. limite territoriale parce qu'un autre squat est passé juste à côté. Donc là, le signal, c'est on est chez nous.
Ils n'ont pas l'air très contents qu'on soit là.
Ouais, enfin, c'est surtout qu'ils regardent un peu si on ne fait pas une erreur d'inattention en faisant partir un pétrel des neiges qui laisse l'œuf tout seul. Et donc là, ils sont extrêmement rapides. Mais là, on est en périphérie de leur territoire. Ils vont rien nous dire. Là, si par contre, on est arrivé jusqu'au nid, là, on le sentirait passer.
Ils attaquent.
Ah oui, très clairement, jusqu'au contact. Hein. Donc c'est des baffes à coups de palme, des coups de bec. Non, c'est sérieux. Et ces pauvres squats sont pleins d'un pesticide organochloré interdit depuis les années 80. Et le Mirex, en fait, il était utilisé comme anti-fourmi aux États-Unis, Australie, Afrique du Sud. Et par le truchement des courants aériens, tout ça se retrouve en Antarctique. Et on a pu montrer, par exemple, que chez les squats les plus contaminés par ce Mirex, la défense du territoire, la capacité à défendre le territoire était moindre. La virulence des attaques était beaucoup plus molle.
Olivier, une partie de vos travaux ici consiste aussi à détecter une certaine molécule chez les oiseaux, enfin certaines molécules au pluriel. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un groupe de polluants émergents dans la mesure où ils sont de plus en plus présents dans les milieux naturels et en milieu polaire en particulier. C'est ce qu'on appelle les composés perfluorés. Et on les trouve notamment à la base de plein d'applications technologiques. Les vêtements type Gore-Tex, on les trouve dans les poils anti-adhésifs, les anti-taches, dans les emballages de fast-food et également dans les mousses anti-incendie.
Et à partir de quel moment ces composés-là ont-ils été détectés sur de la faune sauvage et en quelle quantité ?
Alors en fait, ils ont été synthétisés dans les années 50, 60, et c'est à partir simplement des années début des années 2000 qu'on a commencé à s'apercevoir de leur présence chez la faune sauvage, et en particulier en milieu polaire, d'abord en Arctique. Ici, en Antarctique, on a détecté la présence des perfluorés dans le sang des pétrels des neiges à des doses faibles. Les squats ont des doses un peu plus fortes parce qu'ils sont en prédateurs, donc en haute chaîne alimentaire. Et on a décrit chez des oiseaux en Arctique, cette fois-ci beaucoup plus exposés, des perturbations notamment des hormones thyroïdiennes, du métabolisme donc, également perturbations au niveau du stress oxydant, c'est-à-dire que la présence de ces composés perfluorés stimule le stress oxydant et donc les dégâts oxydatifs sur les cellules. Et c'est pas à peu près tout ce qu'on connaît sur la faune sauvage. Donc il y a vraiment encore plein d'effets qu'on cherche, mais on connaît très mal les effets sur la faune sauvage.
Et comment est-ce que ces composés arrivent dans des latitudes aussi extrêmes, aussi loin de toute civilisation ?
Alors les perfluorés, en fait, il y a deux voies. Une voie marine, par le biais des courants, ça ce sont les molécules, les composés mer. Et puis on sait que les précurseurs qui servent à fabriquer ces molécules, eux, transitent par voie atmosphérique. Donc ce sont les deux voies d'arrivée vers les pôles, et en particulier ici en Antarctique. Donc c'est vraiment un des polluants qui est maintenant un des plus présents, certainement, dans la faune polaire, au-dessus des anciens DDT, PCB, etc. Y compris chez l'homme aussi, c'est un contaminant qui est extrêmement présent. Ça a été d'abord découvert chez les travailleurs des usines fabriquant ces fameux perfluorés. Puis ensuite, on s'est aperçu de leur capacité à se bioaccumuler, de leur extrême persistance, ces molécules qui ne se dégradent pas. Il y a notamment certains acides perfluorés à longue chaîne, là, qui sont ceux qu'on recherche là précisément, sont de plus en plus présents et sont les plus agressifs, a priori, en termes de perturbations hormonales ou d'autres effets physiologiques.
Aujourd'hui, justement, vous avez lancé ici en Terre d'Élite, depuis le temps que vous venez, puisque vous venez très fréquemment, un protocole d'études un peu poussé pour voir l'évolution, justement, des concentrations de ces molécules et de ces composés dans le sang des oiseaux.
Oui, en fait, en 2011, on a lancé, dans le cadre d'un gros programme, un espèce d'état zéro des polluants, donc que ce soit les perfluorés, PCB, mercure, DDT, etc., dans toutes les terres australes et antarctiques françaises, donc en incluant la Terre d'Élite. Et ensuite, pour trouver les contaminants cette fois-ci dans la chaîne alimentaire, eh bien, par exemple, s'agissant des oiseaux, on va le prendre en faisant des petites prises de sang, parce que les perfluorés sont très liés aux protéines, ils ont une affinité pour les protéines, donc prélever dans du sang, c'est pertinent, ça nous renseigne bien sur la charge de polluants, et donc on va comme ça donc capturer nos oiseaux, que ce soit les pétrels des neiges ou les squats ici en Terre Adélie, faire une petite prise de sang sur une veine qui est située sur l'aile, et puis on va obtenir un volume de sang qu'on va ensuite centrifuger, parce qu'on va chercher ça dans le plasma, et ensuite ça va être analysé en France, c'est des analyses assez complexes. Mais les oiseaux, c'est aussi des bons échantillonneurs. Ils nous renseignent sur un peu l'état de santé de l'écosystème antarctique à travers les polluants qu'ils peuvent avoir dans leur tissu. Mais le problème, c'est que voilà, il faut du temps pour en comprendre les effets. Et le temps qu'on arrive à des conclusions et à des décisions, d'autres molécules arrivent sur le marché. L'homme a créé 120 000 molécules. Donc, ça, c'est pas parce qu'on prend une décision en 2019 qu'en 2020, ça aura diminué. C'est-à-dire que quand j'ai hiverné il y a 25 ans, c'était une telle profusion d'animaux, c'est ce qui frappe quand on arrive ici, qu'on se dit ça ne peut pas changer. Mais on sait que ça change et on sait que c'est fragile, extrêmement fragile. Donc plus une prise de conscience d'un trésor qu'il faut surtout pas abîmer, mais qui est menacé de toutes parts.
Qui veut relâcher ? Lise, tu l'as déjà fait ? Tu veux faire ? T'es droitière ? Donc tu vas me donner ta main gauche. Alors regarde la position pour tenir un oiseau. Donc la tête, elle se situe entre l'index et le majeur. Et le pouce vient tout simplement rejoindre l'annulaire sans serrer. Tu fais comme une petite cage autour de l'oiseau. Tu le maintiens, c'est tout. D'accord ? Je vais te le donner dans la main. Tu sens le battement du cœur ?
C'est tellement rapide que...
C'est super rapide, ouais. Alors pour le relâcher, c'est simple. Tu prends cette main-là, tu l'attends, quand tu fais comme une petite piste de décollage, tu poses ton oiseau sur ta main et tu ouvres tout doucement ta main. Et il va décoller tout seul.
Il ne veut pas partir.
Je vais vous mettre un deuxième coup.
Merci, bisous.
Prochain et dernier épisode, il y a ceux qui vont rester pour une année à Dumont-d'Urville et ceux qui en sortent, qui partent et qui se séparent. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier avec Jérôme Fournier, Olivier Chastel et Fabien Petit. À suivre.